Bienvenue sur Métier à tisser, une émission proposée par les Carlotois, un collectif qui ouvre de nouveaux espaces de parole sur le territoire. Chaque mois, un acteur du champ social vient nous raconter la façon dont sa profession l'a mené à la rencontre de l'autre, de l'inconnu, du différent, de l'énigmatique. Ce mois-ci, c'est Eric qui prend la parole pour parcourir avec nous sa vie professionnelle, exercée en tant que psychiatre dans diverses institutions hospitalières, de Paris et de la banlieue parisienne jusqu'aux Cévennes, en Catalogne ou encore à Cahors. Être psychiatre est une vocation qui est apparue chez lui dès l'enfance.
Je pense que c'était pas clairement comme ça, quoi, parce que quand t'es gamin, tu penses pas être psychiatre, mais je me rappelle, gamin, j'ai vu ma mère allongée dans un lit d'une clinique psychiatrique, dans les vapes, sans doute à cause des médicaments. Je crois que peu après, je me suis dit que je voulais être le premier à greffer un cerveau. Voilà. Je pense que ça, je ne sais pas si ça a un rapport. Et puis, je crois que c'était comme ça en fond. J'y pensais pas, quoi. C'était en fond. Et puis c'est quand en terminale, quoi. On passe le bac, et puis on se demande ce qu'on va faire après. Alors, après, c'était... moi, j'ai passé un bac scientifique, donc j'étais bon en maths, en physique. Et je pensais peut-être... je pensais vaguement comme ça, peut-être... ça prenait la forme de construire des ponts, faire des ponts, enfin être architecte, quoi. Et je me suis dit, bon, faire des ponts, architecte, mais c'est un truc bateau, hein, je crois que c'est pas... m'imaginer toujours dans un bureau avec des papiers, faire des calculs et tout ça, et ça me paraissait un peu pas très intéressant. Et il m'a semblé que c'était peut-être plus intéressant de faire des ponts entre les gens, comme ça. Je suis parti vers la médecine avec l'idée, effectivement, de faire de la psychiatrie. Mais c'était pas, je ne savais pas ce que c'était que la psychiatrie, quoi. C'est simplement une médecine qui soignait les gens en difficulté dans leur relation avec le monde, quoi, avec les autres, avec eux-mêmes. Et mon père me poussait aussi à... Il voulait que je sois chirurgien dans l'armée, donc il me poussait aussi à faire des études de médecine. J'ai fait des études de médecine.
Au cours de ses études, Eric a exercé comme interne dans un service de la banlieue parisienne qui travaillait à partir des principes de la psychothérapie institutionnelle, ce qui fut pour lui une découverte et un apprentissage sur le tas. Et donc, tu parles de psychothérapie institutionnelle.
Oui.
Et comment tu la définirais?
Comment je la définirais?
Ouais. Il ne le citait pas, mais ils en faisaient, quoi. Enfin.
Il disait en faire. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je me suis dit... Probablement que le fait que, même pour quelqu'un qui, comme moi, qui avait une formation, disons, scientifique au sens mathématique et physique, quoi. Pas sciences humaines, je veux dire, mais en même temps carré, quoi. Qui ne connaissait pas non plus la psychiatrie, qui ne savait pas trop finalement ce que c'était que la maladie mentale, la folie, etc. J'ai trouvé dans cette façon de travailler quelque chose qui était à la fois agréable, c'était des conditions de travail agréables, mais en même temps je trouvais que ça permettait de... Alors, bon, on pourrait dire se soigner. Je dirais pas ça vraiment comme ça, quoi. Ça permettait de on pouvait, ça permettait de penser, ça ouvrait à penser. C'est-à-dire que on était bien obligé, on n'avait pas, il n'y avait pas de recette, pas de protocole. On était là, et puis il se passait des choses. Je n'avais pas de recettes, j'avais pas de technique, j'avais rien à attraper, à appliquer comme ça sans réfléchir. Donc du coup, pour me sortir d'affaires à chaque fois, j'étais bien obligé de me poser des questions, de me dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, et d'essayer de faire des hypothèses, et puis d'en déduire ben, si je faisais ça, et puis d'essayer, et puis... Alors, c'est peut-être une façon d'apprendre un peu maladroite, peut-être, parfois, et peut-être j'étais malhabile ou je ratais des trucs. Mais en même temps, je crois que c'est une façon et d'apprendre et surtout de rester propriétaire de soi-même et puis du travail qu'on fait. Voilà. Le travail qu'on fait, c'est le travail qu'on a pensé. Et c'est pas... Et ça, c'est quand même angoissant, certes, mais c'est quelque chose qui fait progresser. Voilà, ça, on progresse, il n'y a pas besoin de passer d'examen. Les examens, c'est de voir comment on avance, quoi, comment on avance dans le boulot. Quoi. Moi, je crois que c'est beaucoup ça, la psychothérapie institutionnelle, finalement, c'est-à-dire... Je ne sais pas. Non, mais c'est compliqué parce que c'est plusieurs choses à la fois, quoi. Moi, je me souviens un jour un jeune patient a fugué. Il est rentré chez lui. On s'est aperçu qu'il avait fugué. On l'a cherché autour, on l'a pas trouvé. Ses parents nous ont téléphoné pour dire qu'il était rentré à la maison. On est allé le chercher. Les parents nous ont ouvert la porte. J'y suis allé avec un collègue, un infirmier, et le patient, il était dans sa chambre, il était enfui sur les toits. Ben on est allé à sa poursuite sur les toits, par exemple. Enfin, je pense que je ne sais pas si maintenant les infirmiers sortiraient de l'hôpital pour aller chez le patient, peut-être qu'ils téléphoneraient aux flics pour demander qu'ils aillent le chercher, enfin j'en sais rien. Voilà, des choses comme ça, quoi. On se sentait responsable de ce qui pouvait arriver pour ce patient. Et, c'était aussi pris dans la relation avec lui. Il avait fugué, il fallait qu'on en discute avec lui, qu'on sache pourquoi. Et puis il avait fugué, il y avait un truc qui était engagé entre lui et nous, qu'il avait cassé. C'est pas un reproche, c'est un constat, il avait cassé. Bon, qu'est-ce que... On s'était pas dit, bon, bah, il a fugué, il est mieux en service, il est en déplacement libre, voilà, si les parents veulent que les soins reprennent, ils n'ont qu'à le ramener, un truc comme ça, quoi. On sentait impliqué dans la vie de ce patient, comme des personnes qui étions dans son paysage, et avec qui il s'était passé quelque chose. Il a fugué. Et cette chose-là, on est responsable, donc on essaie de savoir ce qui se passe, on essaie d'en faire quelque chose, quoi. Plutôt que de se dire, bon, ben voilà, c'est fini, il n'est plus là, il a disparu de notre environnement, il n'est plus dans notre sphère de travail, donc on attend qu'éventuellement il réapparaisse. Alors, peut-être, c'est peut-être très discutable, mais voilà. Ceci dit, ça situe le patient dans une autre place, quoi. C'est-à-dire que ça situe le patient comme un être responsable de lui-même, dans la relation à nous-mêmes, qui sommes responsables de notre travail, et ça ne nous situe pas comme des fonctionnaires qui devons attendre que le patient soit là, et qui n'avons rien à voir avec le fait qu'il n'est pas là, il peut lui arriver des trucs, il peut aller mal, c'est plus notre affaire, attendons que la famille le ramène, quoi. Hein, ou appelons la police pour que la police le ramène. Cette autre fois où j'avais vu un jeune, je crois que j'y connaissais rien en psychiatrie, j'ai vu un jeune homme arrivé aux urgences, il s'était shooté à l'éther. C'est un gars qui, c'est un hétéromane, quoi. Il se shootait à l'éther. Il était complètement dans les vapes. Et puis, il était aux urgences. Enfin, c'était pas vraiment des urgences. C'était la salle d'accueil de l'hôpital général. Et il s'est échappé, quoi. Il est parti, on discutait, et puis il s'est levé, il est parti. En courant, j'ai couru derrière lui, et puis je l'ai attrapé, je l'ai plaqué. Comme un rugbyman plaque un autre joueur. Et puis j'ai ramené après dans la salle. Moi, quand j'y pense maintenant, je n'ai pas le sentiment que les collègues, que les collègues ces dernières années qui travaillent aux urgences auraient couru après un patient, l'auraient plaqué au sol s'il s'enfuit pour le ramener, quoi. Alors, bon, c'était un contact physique, il y avait de la bagarre, du plaqué, quoi. On pourrait assimiler ça à un acte de violence, quoi. Sur le coup, en tout cas, j'y connaissais rien, ça me paraissait pas de la violence. C'était, mais qu'est-ce qui se passe? Ce gars, il s'en va, il est pas bien, je peux pas le laisser partir comme ça, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Alors, que faire? J'en savais rien, mais voilà. C'est de l'ordre de l'engagement. Je crois qu'on se sentait engagé dans notre travail.
Comme un ange blanc noyé dans la durance. Comme un démon, tu déferas le tien. Comme l'oiseau borgne, comme Jeanne de France, dans ta démence, tu déferas le tien. On se croit d'amour, oh on se croit féroce, enraciné. Mais revient toujours le temps du lien des vies. On se croit d'amour, oh on se sent épris d'éternité. Le temps du lien des faits. Comme la reine des prés, morte terre. Tu déferas le tien. Comme la femme douce, comme l'homme léger. Au moment d'oublier. D'amour, oh, on se croit féroce, enraciné. Mais revient toujours le temps du lien des faits.
Au début des années 80, Eric choisit de poursuivre sa formation en exerçant dans un hôpital de jour parisien, l'Élan Retrouvé, qui travaillait à partir de la psychanalyse. Je lui ai donc demandé ce que la psychanalyse lui avait enseigné.
Ben, ce que j'y ai appris, c'est à regarder la folie, ce que produisent les patients, à le regarder non pas avec une perspective ou un regard de psychiatre, de médecin, À regarder ça, comment dire ça? À considérer peut-être que c'était pas seulement une maladie, la folie, c'était pas seulement une maladie, mais que c'était une composante de la personne. Voilà. C'était la personne. Voilà. La folie, c'est pas une maladie, c'est la personne. Je ne sais pas si c'est clair. Mm-hmm. Je crois qu'avant ça, je considérais que je soignais des gens qui étaient pris par un truc qu'on appelle une maladie mentale. C'était des gens quand même. Et je crois que là, ce que j'ai appris, c'est que la maladie mentale, c'est pas une maladie. C'est une part de la personne. Voilà, ça fait corps avec la personne. Voilà. Je pense qu'avant ça, j'en avais une sorte de pressentiment, mais pas en tout cas une élaboration, pas une certitude, pas une. C'était pas une. Par exemple, voilà, pour en donner un exemple, ça m'a frappé. J'avais pas beaucoup de patients, j'étais interne. Bon, en fait, j'allais surtout aux réunions, surtout les réunions d'admission. Il y avait les lettres qui étaient envoyées par les médecins des hôpitaux qui demandaient qu'on prenne en charge, que l'hôpital de jour prenne en charge un patient. Ils envoyaient une lettre, éventuellement à des médecins qui connaissaient, je sais pas quoi, des mais. Et ces lettres étaient sur une table dans la salle de réunion. Et dans la semaine, les uns et les autres pouvaient aller là et puis lire les lettres. Et puis, il y avait une réunion par semaine où on prenait, le médecin référent de l'hôpital de jour prenait une lettre hein, et puis il la lisait et puis demandait s'il y avait des gens qui avaient lu la lettre, ça intéressait. Et si personne n'avait lu, n'était intéressé par la lettre, comme ça, a priori, on en discutait, et puis on faisait des hypothèses, etc. Et puis, quelqu'un ou avait envie, ou alors était désigné, ou se désignait, pour recevoir ce patient, pour examiner sa candidature. Et donc ça, c'était déjà un élément très intéressant, parce que on ne connaissait pas le patient. Hein, de voir déjà d'emblée comment, à partir de ce qui est... c'était pas une clinique, à la limite, c'était pas une clinique du patient. C'était une clinique de la demande, faite par le médecin, par le psychiatre. Donc c'était plutôt une clinique du psychiatre, des psychiatres qui adressaient les patients, que des patients eux-mêmes. Et moi, je me rappelle très bien, je assistais à ces réunions, j'apprenais beaucoup plus, enfin beaucoup dans ces réunions-là. Un jour, il y a un patient qui était présenté, et puis... Je ne pense pas avoir moi proposé de le prendre en charge, mais on m'a plus ou moins suggéré de le prendre en charge ou proposé, et puis j'ai accepté. Quoi. Voilà. Donc c'était un patient qui avait une psychose, un patient arménien qui avait une psychose. Bon, ouais, je reçois ce patient, et puis aux réunions d'après, je parle un peu des réunions, des entretiens, et puis j'avais le sentiment que le patient, lui, s'en foutait en fait un peu, quoi, de venir là ou pas. Ils s'en fichaient de tout, quoi. Ils étaient peut-être un peu trop neuroleptisés. Ce psychiatre-là, s'impatientait, le psychiatre qui l'avait envoyé s'impatientait, il voulait qu'on le prenne en charge. Et alors il insistait, alors on m'a dit, alors qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que j'étais un petit peu, je voyais pas bien à quoi ça pouvait déboucher, mais j'avais aussi le sentiment que si on le prenait pas en charge, il faudrait que je dise pourquoi. Et que je n'avais pas de bonne raison de refuser qu'il vienne là, quoi. Il est venu. Et au bout de 2-3 fois, je m'aperçois dans le dossier, parce qu'à l'époque, j'avais vu sans dossier, quand il est venu, on a vu le dossier, qu'il avait eu, en fait, qu'il avait un examen sanguin qui indiquait qu'il avait la syphilis. enfin qu'il pouvait avoir la syphilis. Alors, mais il sait tout. Apparemment, il n'avait rien fait à Sainte-Anne, c'est un gars qui vient de Sainte-Anne. Il n'avait rien fait de cet examen, donc il ne s'était pas demandé si le gars avait ou pas la syphilis, et il n'avait pas traité, enfin, il n'avait pas... Alors, la syphilis, quand même, c'est un peu contagieux. Alors, je me suis dit, bon, il faut peut-être... Alors, j'ai écrit à ce gars pour lui demander un peu... dire, voilà, il a un bordé Wasserman positif, quand même, ça veut dire que probablement il a la syphilis, est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez... Est-ce que... Hein. Il avait répondu comme, non, c'est vraisemblablement un faux positif, parce que ce patient étant schizophrène, il ne peut pas avoir de rapport sexuel. Voilà. Ça, c'est le psychiatre, ça. Il est schizophrène, donc il est atymormique, il est apathique, enfin, il ne peut pas avoir de rapport sexuel. Voilà. Et le psychanalyste, je pense que il pense que c'est une personne, quoi. Et que comme toute personne, elle a exactement les mêmes possibilités. Alors, elle n'a peut-être pas forcément les mêmes facilités d'exprimer ou d'utiliser ses possibilités, mais il n'a pas moins de possibilités que quelqu'un qui ne l'est pas, quoi. En tout cas, cette matière-là, par exemple. Voilà. Donc, j'ai peut-être appris ça. Et puis j'ai assisté à un séminaire... que j'ai poursuivi après pendant plusieurs années, hein, de lecture de Lacan. Enfin j'en ai pas fait un grand usage, mais ça m'a permis d'être un peu moins bête, je crois. Ben, ça a participé à ce que je sois un peu moins bête que je ne l'étais quand j'étais jeune homme. Mais peut-être que là, j'aurais suffi à ce que je...
plus de temps,
ça a peut-être suffi, mais bon, voilà, je me dis ça comme ça pour justifier que l'investissement que j'ai mis.
Mais de considérer, je vais le dire avec mes mots, mais que la maladie psychique est pas seulement une maladie, mais fait partie du sujet,
ouais.
Change sans doute en tant que médecin, parce que tu es médecin, la définition de ce que peut bien vouloir dire soigner.
Ah ben absolument. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas soigner. Enfin, à partir du moment où on dit ça, on ne peut plus soigner, puisqu'il n'y a plus rien à soigner. Mm-hmm. C'est plus une maladie. Par contre, le travail qu'on peut faire, c'est un travail de, je dirais presque, de révélation, de réflexion. Absolument. C'est-à-dire... en quelque sorte, d'être une sorte de miroir qui réfléchit au patient ce qui produit, hein, qui peut lui permettre de prendre conscience de ce qu'il fabrique lui, hein, ce qui est plus difficile à faire quand on est un proche, parce qu'on est embarqué par sa propre relation avec l'autre, enfin son propre intérêt dans la relation qu'on a avec le patient. Et puis, ce qui complique aussi, parce qu'on est embarqué par les émotions, et on réagit essentiellement émotionnellement, alors qu'un soignant, lui, il peut réagir de manière... en sachant qu'il n'est pas engagé... Enfin, il s'engage, lui, mais il n'est pas engagé émotionnellement, quoi, dans l'affaire.
Impliqué,
enfin, personnellement, quoi. C'est fonction, voilà. C'est pas sa personne qui est engagée pour le patient, mais c'est sa fonction qui est engagée pour le patient. Et donc il se sent moins attaqué, moins mis en cause par le patient, et donc il peut, a priori, réagir moins émotionnellement, et en plus il a en principe aussi un peu plus de connaissances que la famille sur comment ça marche le psychisme, quoi. Hein? Enfin, il avait, parce que les psychiatres, maintenant, je ne suis pas certain qu'ils en aient beaucoup, les jeunes, mais la plupart, je veux dire, puisque on n'apprend plus vraiment le psychisme en psychiatrie, maintenant. Enfin, c'est plus vraiment un objet considéré, quoi. Hein. Enfin, et donc, je pense qu'un psychiatre ne peut pas soigner un fou. Il doit réfléchir la folie. C'est-à-dire, il donne au fou... l'image de ce que sa folie produit, et il réfléchit seul au début. Et lorsque ça marche bien, la relation, il réfléchit, il peut peut-être réfléchir avec le patient, réfléchir à deux sur qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? C'est quoi? Comment faire? Comment... Et puis essayer de faire en sorte que la folie soit mieux assumée, maîtrisée, prise en main par le fou lui-même. Voilà, je dirais ça. C'est pas soigner, c'est réfléchir. Voilà, je crois que c'est ça.
Et donc, est-ce que c'est plus proche psychiatre de quelqu'un qui greffe des cerveaux ou quelqu'un qui fait des ponts? Ni l'un ni l'autre.
Bah, maintenant, la psychiatrie se rapprocherait plutôt de la première hypothèse, parce que les traitements psychiatriques, maintenant, c'est les neuroleptiques, bien sûr, les traitements médicamenteux, mais c'est aussi la chirurgie stéréotaxique, c'est-à-dire pour les névroses obsessionnelles, par exemple, pour certaines psychoses, sans doute, peut-être même, on va savoir, pour les psychoses hallucinatoires chroniques, il s'agit, alors c'est beaucoup plus facile maintenant, parce que je crois qu'avec le rayon laser, on peut faire des belles choses, il s'agit maintenant d'aller brûler précisément tel point minuscule du cerveau pour traiter la névrose obsessionnelle. Hein. Donc, détruire une minuscule partie du cerveau pour espérer, c'est un peu la lobotomie, hein, mais à une échelle beaucoup plus scientifique, quoi, hein, beaucoup plus précise, beaucoup plus scientifique. Voilà. Donc, maintenant, c'est ça les recherches et l'avenir de la psychiatrie. Actuellement, c'est ça, c'est les neurosciences. Alors, ça, c'est plus proche de greffer un cerveau que de faire des ponts avec les gens. Que pour faire des neurosciences, pour faire la chirurgie stéréotaxique, par exemple, pour faire ça, ou des trucs comme ça, ils sont quasiment obligés d'endormir des patients. Endormir un patient endormi, les relations sont assez pauvres, quoi. C'est l'orientation qui est prise. Parfois j'ai des doutes, parfois je me dis ils ont peut-être raison, peut-être qu'effectivement, même si la psychologie existe et est le lieu de la relation entre les personnes, entre les sujets, peut-être que tout ce qui est maladie mentale, la psychiatrie, c'est de la médecine et que ça n'a rien à voir avec la psychologie. Pour dire ça.
Par la folie.
Hein?
La folie, quand tu dis maladie mentale.
Oui, c'est... Moi, personnellement, je dis folie, mais c'est vrai que c'est embêtant parce que. Alors, il y a quatre expressions qui sont comme ça, très problématiques à utiliser. On peut parler de maladie mentale. Quand on dit maladie mentale, on indique deux choses. On indique d'abord que c'est une maladie, donc on parle de médecine. Et après, c'est une maladie qui est mentale, donc on parle du mens. Alors ça, c'est quoi, ça? Est-ce que c'est neurologique? Est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est le psychisme, mens? Bon. Psychiatre, l'étymologie, c'est quand même médecin de l'âme. Alors, l'âme, à mon avis, c'est quand même moins le cerveau, mais c'est un peu plus la personne, quoi, le psychisme. Bon. Ça, c'est maladie mentale. Après, il y a trouble psychique, c'est l'autre expression qui est utilisée. Moi, j'aime bien cette expression, qui a un inconvénient, mais j'aime bien les avantages, c'est que ça dit trouble. Et pour moi, trouble, c'est un peu comme quand on voit trouble. C'est-à-dire, c'est un trouble de l'accommodation. Alors, l'accommodation, c'est-à-dire, quand on passe de la vue de loin à la vue de près, il y a un moment où on voit plus nettement, où c'est flou. C'est ça, l'accommodation, pour l'œil. Alors, un trouble de l'accommodation, c'est un trouble visuel. C'est-à-dire le patient, il ne voit pas bien les choses comme elles sont. Les choses apparaissent un peu floues. Et puis en même temps, l'accommodation, c'est aussi comment on s'accommode. C'est-à-dire comment on peut s'arranger avec ce qui nous entoure, avec les gens, avec la vie, avec la vie sociale, avec les choses. Donc moi, j'aime bien trouble psychique parce que, voilà, pour moi, ça évoque trouble de l'accommodation. mais qui concerne pas la vue, mais le psychisme. Hein, voilà. Donc, maladie mentale, trouble psychique, après, on passe à un autre registre, qui est la folie. Hein. Alors, la folie, ça, je trouve ça intéressant aussi, parce que ça ramène les choses plutôt dans un registre un peu philosophique. C'est l'insensé, c'est des choses qui n'ont pas de sens. Hein. Donc ça ouvre encore un autre monde, quoi, hein, dire folie. La folie, c'est... Il y a le fou du roi, enfin, ça, c'est quelque chose qui est en même temps, qui n'est pas, finalement, qui n'est pas aussi pathologique, qui n'est pas aussi grave, voire qui n'est pas pathologique, dans le sens médical du terme. Mmh. Hein. Donc c'est des termes, je trouve... Alors, souvent, on utilise ces termes de manière un peu, enfin, sans trop réfléchir. On parle de santé, on parle de santé mentale, on parle de maladie mentale ou de troubles psychiques, et comme si c'était équivalent tout ça, mais c'est pas du tout équivalent. Et le terme employé, en fait, recouvre des choses très différentes, même si on les utilise indifféremment, quoi, souvent. Hein, voilà. Alors moi, ça m'embête que la psychiatrie soit complètement rabattue, complètement éliminée au nom de l'antipsychiatrie ou d'une antipsychiatrie. Voilà. Je pense qu'il y a effectivement des maladies mentales, mais quand on dit maladie mentale, comme on rabat les choses sur les médecines, on peut donner le sentiment aux gens que c'est une maladie comme les autres, ce que ce n'est pas, justement. C'est-à-dire que c'est une maladie qui vient comme une espèce de corps étranger, qui n'est pas la personne, qui n'appartient pas à la personne, mais qui vient, en quelque sorte, emmerder la personne, ou l'altérer. Qu'il faut rétablir la personne en enlevant le machin qui l'altère, la maladie mentale. Sauf que, on voit bien, en tout cas... Quand on soigne un psychotique qui délire, si on lui donne des neuroleptiques de sorte qu'il ne délire plus, eh ben on a affaire à des gens qui sont déprimés et qui se suicident. C'est-à-dire, s'ils se suicident, c'est qu'ils ont une perte d'objet. Et l'objet qu'ils ont perdu, ben c'est le délire. Et le délire qu'ils ont perdu, qui fait qu'ils se suicident, c'est le délire que le psychiatre leur a enlevé avec le neuroleptique. Enfin, c'est rapidement dit, hein, ça. Et c'est peut-être pas vrai. Moi, je vois les choses, schématiquement, je vois les choses comme ça. Et c'est pour ça que je pense que, probablement, que c'était intéressant, parfois, de donner des neuroleptiques à quelqu'un qui délire, parce que, du fait qu'il délire, il s'enfuit à chaque fois qu'on approche de lui à 100 mètres. On ne peut pas lui parler dans ces cas-là. Probablement que c'est... ou si, vraiment, son délire, c'est de se mettre dans la soute d'un avion pour pouvoir, ou d'une fusée pour pouvoir aller à la Lune, je sais pas quoi, et puis d'être brûlé par les gaz dès que la fusée démarre, enfin j'en sais rien.
Quand son délire veut le mettre en danger.
Là, voilà, là c'est peut-être utile de lui donner un peu de neuroleptique pour qu'il délire moins, ou que son délire il ne le passe pas à l'acte, il ne fasse pas trop agir. Mais en tout cas, il ne faut pas prendre le délire comme une maladie, quelque chose qui vient en plus transformer la personne pour la rendre folle, mais il faut la prendre comme quelque chose qui fait partie de la personne. Et c'est la personne qu'il faut traiter pour que le délire, non pas disparaisse, mais soit réintégré dans le fonctionnement de la personne, de telle sorte qu'il puisse en faire quelque chose qui lui permette de vivre avec son délire, et avec les autres, et avec le monde.
S'en accommoder, quoi.
S'en accommoder, voilà, absolument, s'en accommoder. S'en accommoder, tout à fait. Oui. Donc, voilà. Donc les neuroleptiques, faut pas, ça suffit pas du tout, parce que si on donne des neuroleptiques en pensant que c'est parce que le symptôme c'est le délire et qu'il faut enlever le symptôme parce que ça c'est en trop, c'est la maladie, c'est pas du tout la même façon. On prescrit pas le traitement pour en obtenir la même chose que quand on considère que c'est pour pouvoir atténuer quelque chose de la personne qui envahit trop la personne et qui fait qu'on peut pas avoir un contact avec lui et qu'on ne peut pas le soigner, c'est-à-dire travailler avec lui, ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette affaire qu'il raconte,
réfléchir avec lui.
Voilà, réfléchir avec lui, voilà, c'est ça. Hein? Mais Dans ce cas-là, le neuroleptique, ce n'est pas le traitement de la maladie. C'est un moyen, c'est un outil pour pouvoir, de la même façon que l'hospitalisation. Hospitaliser quelqu'un, ça n'a jamais soigné personne, ne guérit personne. C'est ce qu'on fait pendant l'hospitalisation, ce qui se passe, qui permet de... qui était efficace, enfin qui peut être thérapeutique.
Rends-moi grand d'une ville, grouille la foule des saoulés, j'ai envie au hachoir. À moi s'agrippent des grappes de tyrans, des archanges aux blanches canines, qu'on me disperse. Je suis noir de monde, qu'on me dispense du son et le son, qu'on me dissipe. En moi ce vautre des divans, de l'aorte à la carotide. Circulent des rumeurs à faire pâlir. Qu'on me disperse. Je suis noir de monde. Qu'on me dispense du son des leçons. Qu'on me distribue à tous les Jésus. Je voudrais t'aimer comme un seul homme. Arrêter d'inonder la Somme. Avoir l'amour en bandoulière. L'amour en bandoulière. La foule des saoulés, ses envies au hachoir.
Tu demandais un peu tout à l'heure, alors greffer un cerveau ou faire des ponts? Ben, il se trouve que je m'aperçois que depuis quelques années, je me dis que finalement le psychiatre, c'est quelqu'un qui fait, c'est quelqu'un qui est un urbaniste. C'est pas quelqu'un. L'architecte, moi j'aime bien l'architecture, qui construit une maison qu'on habite, mais c'est quelqu'un qui peut repérer dans un espace les endroits où il y a des vides, les endroits où il y a trop, les endroits où ça circule, les endroits de passage, et qui peut essayer de travailler à ce que ce système s'adapte ou soit adapté pour fonctionner de manière plus harmonieuse. Voilà.
Donc ça circule.
Ça circule, voilà, oui. Donc moi je trouve, enfin là je parle du psychiatre de secteur, je ne parle pas d'un psychiatre libéral. Peut-être qu'un psychiatre libéral, son boulot, ce serait de faire avec le patient une baraque, quoi, plus habitable pour le patient, hein, à partir des ruines qu'il a, puis des morceaux tombés par terre, etc., peut-être. C'est aussi un peu ça, mon boulot de psychiatre dans le public, mais ça, c'est par rapport au patient. Mais il y a quelque chose de plus pour le psychiatre de secteur, ou dans la psychothérapie institutionnelle, c'est ce travail d'urbaniste.
Du coup, c'est un lieu de vie commun, pas seulement un lieu de vie individuel. Enfin,
Je sais pas si on peut considérer un être humain seul.
Si, tu sais.
Non, je ne sais pas. Enfin, je sais qu'on ne peut pas.
Ben voilà.
C'est un euphémisme, c'est une façon de dire. Même le psychanalyste qui dans l'espace intime de son bureau... considère le patient sur son divan et seulement lui, c'est pas vrai, quoi. Dans le même moment de la séance, le monde entier est dans le bureau. C'est peut-être le moment ou la situation qui illustre le mieux comment on peut faire tenir ensemble un temps social et un temps psychique, un temps de l'inconscient qui n'est pas un temps chronologique ou linéaire, ou hein, peut-être une façon de... Alors peut-être qu'il faut pour ça faire une asepsie du bruit social pour ne garder que le bruit du patient. Mais c'est un bruit, le patient, c'est pas uniquement un dégargarisme ou un déborborigme intestinaux, c'est le bruit du monde, quoi. Le monde tel qu'il l'a pris, tel qu'il... de son monde.
Bon, et de tout ce parcours,
eh bien,
de quarantaine d'années,
mais bien,
tu te sembles avoir appris des choses.
Oui, oui. Bon, j'ai appris que la vie n'avait pas de sens. Déjà, c'est pas mal.
Au départ, t'imaginais qu'elle en avait un ?
Je n'imaginais pas. Elle avait un sens. Elle devait avoir un sens. Qu'est-ce que tout ce parcours ? Oui, que... Je ne sais pas, c'est difficile à dire parce que malheureusement, j'aurais préféré faire le parcours en sens inverse. C'est-à-dire que j'aurais préféré que les circonstances de travail, les conditions de travail, aient été au début celles que j'ai connues à la fin. Et qu'elles aient été à la fin celles que j'ai connues au début. Donc je dirais que moi, j'ai fait un parcours professionnel dans une partie, dans une courbe décroissante. Et au début, j'avais le sentiment d'être travaillé dans un collectif, avec d'autres personnes, d'être à ma place, et puis que tout le monde avait sa place et qu'on pouvait ensemble faire quelque chose. Dans l'ordre du soin. Enfin, les dernières années de travail, j'ai très fortement eu l'impression que, en fait, je squattais l'hôpital, c'est-à-dire que j'étais là, mais que je ne pouvais travailler comme je travaillais. Ça ne pouvait se faire que... Comme des squatteurs vivent dans un squat. Sans respecter les règles de la boutique dans laquelle je travaillais. Enfin, règles. Et deuxième chose aussi, c'est que j'ai eu le sentiment, enfin j'ai acquis la certitude plutôt, plus ça allait à la fin de mes années de travail, qu'on ne pouvait plus soigner les fous à l'hôpital. Et qu'on ne pouvait même plus soigner les fous dans le secteur psychiatrique, qui n'existe plus que, je ne sais pas comment d'ailleurs, parce que même légalement, il n'existe plus. Dans la dernière loi hospitalière, il n'est plus question de secteur, il y a le mot n'y est plus, ça n'existe plus. Il n'y a plus de chef de secteur, il n'y a plus de... Voilà. Pourtant, le secteur, c'est ce qui existe concrètement. Mais il y a deux hôpitaux, voilà, il y a deux hôpitaux, l'hôpital des administrateurs, des managers, et l'hôpital des soignants. Et les patients, même dans l'hôpital des soignants, on ne peut plus les soigner. Parce que c'est l'espace des soignants est de plus en plus étriqué, en peau de chagrin, à la limite, il n'y a plus comme espace de soins qu'un espace psychique entre les personnes, quoi, qui est un espace immatériel. Donc voilà, donc les gens, on les soigne entre deux portes, dans les couloirs, dans la rue, dans les endroits où il n'y a pas d'administration et pas de management. Alors, c'est donc d'une certaine façon un constat amer. Hein. En même temps, je m'en suis responsable en tant qu'électeur, donc je n'ai qu'une voix là-dedans. Parmi les, je ne sais pas combien de millions de voix qu'il y a en France. Hein. Puisque c'est les pouvoirs publics qui ont... Et puis c'est vrai, il faut le dire aussi, les psychiatres, pas beaucoup de tendresse pour eux. Ils sont complices de tout ça, quoi. La plupart, en tout cas, la plupart. Alors, je sais pas, je suis un peu embêté après avoir dit des choses qui me semblent refléter un certain enthousiasme et d'avoir à faire un constat aussi mélancolique.
Oui, mélancolique, mais des interstices, il y en aura toujours. Donc.
Oui.
C'est une façon plus engagée. Enfin, pour le coup, pour soigner, on est obligé d'être engagé aujourd'hui.
Absolument. Mais alors, du coup, quand on se dit, comme je me dis moi, que je me mets sur le bord du monde et je regarde ce qui se passe, ça va. Je me dis ça, moi, depuis que je suis là, même un peu avant la retraite. Du coup, ma retraite, ça se passe bien. Mais quand on a le senti, quand on se dit, bon, moi, je suis engagé, je suis dans le tourbillon, je suis dans le mouvement de la vie, de tous ces gens, et ce qui se passe et tout, et puis qu'on essaie d'y prendre sa place, alors, pour le coup, je crois qu'on prend beaucoup de risques et on doit sacrément se faire mal, quoi. Hein. Donc, je crois qu'il ne faut pas être dupe, quoi. Les interstices, je suis d'accord, mais à condition qu'on le sache, quoi. Et qu'on n'imagine pas qu'on peut faire des choses sur le bitume ou sur le béton. Hein. Qu'il faut probablement passer par le bitume et le béton parce qu'il y a un minimum de... Il y a le prix à payer, quoi. Le prix à payer pour gagner sa croûte. Hein. Mais en sachant que voilà, là où ça se passera, c'est dans les interstices. Et ça, c'est des trucs qu'on ne commande pas, c'est des trucs qui se font en pirate, en douce, quoi. Et je crois que, oui, je pense qu'il faut squatter le travail. Il faut squatter au maximum l'espace, le travail. Et ça, je pense que c'est valable pas que pour les hôpitaux psychiatriques. Et même pas que pour les hôpitaux. Je pense que c'est valable un peu partout, quoi, dans la vie. Autrement dit, c'est politique, quoi.